Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez, bienvenue en tout cas pour ce nouveau numéro du Canut Info du jeudi. Vas-tu bien Laurent?
Tout à fait, toi aussi Delphine?
Très bien, alors je propose que nous dédions ce Canut Info à toutes les Iraniennes qui souhaitent faire du vélo, puisque tu as certainement entendu.
Oui, c'est compliqué en Iran de faire du vélo
quand on est une femme. Qu'elles ont des difficultés, donc voilà, nous amenons tous nos soutiens et notre solidarité. Alors ce soir on va vous parler d'Israël et de Palestine, on ira faire un tour en Turquie pour la rentrée des classes. Nous reviendrons sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique avec un nouvel assassinat d'un noir. Nous parlerons du très beau procès David Einstein, vous savez, ces grands acheteurs d'art. Nous parlerons des prisons en France, hein, puisqu'il y a des nouveaux plans qui s'annoncent. Nous irons voir du côté de la Corrèze pour les bien bonnes idées de nos politiques. Nous aurons des sujets sur l'inégalité, un sujet sur l'inégalité environnementale au travail. Nous parlons aussi du cannabis du point de vue environnemental. Puis peut-être qu'on terminera par un petit truc sur la fête des Lumières. En tout cas, j'aurais peut-être pu commencer par cher Gaulois, chère Gauloise.
Ah,
ah bah oui, hein, monsieur Sarkozy s'est encore une fois répandu dans la presse. Comme le fait remarquer monsieur Juppé sur un réseau social, pour moi, faire campagne, ce n'est pas lâcher une incongruité tous les jours pour faire parler de soi. Bah, monsieur Sarkozy a choisi pourtant cette stratégie. Alors, revenons un peu sur ces fameux propos de Gaulois et de Gauloises. Alors, pour moi, le pire, ce n'est pas tant cette fameuse Gaule, mais d'autres propos et un vocabulaire bien choisi. C'était donc à Franconville, il a déclaré « Si l'on veut devenir français, on parle français, on vit comme un français. Nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus, nous exigeons l'assimilation. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je vis comme un français. » Alors déjà, bon, vivre comme un français ou une française, moi, j'ai cherché, c'est un débat intérieur qui m'anime, je dois dire. Mais on revient à ce terme d'assimilation, moi ça me rappelle mes cours de sociologie, puis qui datent pourtant il y a bien bien longtemps. Donc on en revient encore, hein, entre l'intégration, l'assimilation, à ce vocabulaire. L'assimilation c'est quand même quelque chose de particulier. Alors il a voulu quand même s'expliquer un peu mieux, et tout ça s'est passé lors du dîner organisé par Valeurs Actuelles. Il y avait 500 convives, il et elle avaient déboursé 135 euros pour assister à ce grand discours, cette grande conférence de monsieur Sarkozy. Donc il a rappelé, mon grand-père est hongrois, hein. Bah oui, nous on s'était posé aussi un peu la question. Ça veut dire qu'il y a un roman national, que ce roman national, ce n'est pas forcément la vérité historique dans son détail, mais c'est un roman national peuplé de héros qui ont fait la France. Et quand on est fils d'un hongrois ou fils d'un algérien, et que vous arrivez en France, on ne vous apprend pas l'histoire de la Hongrie ou de l'Algérie, on vous apprend l'histoire de France. Donc monsieur Sarkozy nous explique tout simplement qu'il faut adhérer à un patrimoine collectif identitaire. Parce que le patrimoine collectif, c'est déjà des choses qui, à travers l'histoire, nous sont amenées. Hein, on peut parler de la culture, par exemple la Joconde. Hein, beaucoup de Français pourraient vous la citer comme un objet culturel important.
Il était italien, Leonardo da Vinci.
Mais pourtant, voilà, on en a fait notre patrimoine collectif. Mais le patrimoine collectif identitaire, c'est bien un truc de fasciste. Hein, et c'est bien ce que fait monsieur Sarkozy, qui s'énerve, hein, puisque pendant ce dîner repas, il a expliqué, prononcer le mot islam, l'islam, c'est déjà être islamophobe. À la minute où vous prononcez le mot, on exige déjà que vous vous excusiez. S'excuser de quoi ? Dire qu'il y a un problème massif d'insécurité ? On devient un apprenti dictateur. Poser la question de l'immigration et on est raciste. Ben, ce qui est intéressant, c'est que dans la même phrase, il arrive à nous mettre le problème de l'insécurité et de l'immigration.
Et de l'islam, du coup, c'est l'islam qui fait des délinquants, en fait.
Il fait des raccourcis, quand même. Donc, moi, je m'excuse, j'entends et je relis ses propos. Oui, monsieur Sarkozy, vous avez des propos racistes, discriminants. Et puis, il nous a fait un discours aussi pendant ce dîner-repas, mais qu'il avait déjà fait, qu'il va certainement poursuivre, sur un truc qui vient bien de la famille Le Pen. Il nous a parlé de la pensée unique, puisqu'il paraît qu'il y a des élites françaises perverties par une pensée unique insupportable. On voudrait nous faire taire, a-t-il expliqué.
Lui, on le fait pas taire, hein, il parle tous les jours.
Il est dans tous les médias, il est invité. Voilà. Alors bon, je sais pas si cette campagne des primaires va ressembler à la campagne pour les prochaines élections législatives en Géorgie, puisque deux parlementaires en sont venus aux mains lors d'un débat télévisé, parce que bon, vu le contenu des débats, c'est assez intéressant. Alors aussi, d'après monsieur Sarkozy, un propos qui revient aussi souvent, c'est qu'on est un pays d'assistés en France, hein. Vous savez, il y a des profiteurs et des profiteuses. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce rapport qu'a dévoilé Mediapart, un rapport confidentiel commandé par monsieur Hollande. Un rapport des patrons de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Ce rapport chiffre à 10 300 000 euros par an le coût des dépenses pour nos trois anciens présidents de la République. Excusez-moi, mais ça, si c'est pas de l'assistanat, je sais pas ce que c'est. Alors...
Et le gars qui est chômeur et qui touche qui est au RSA et qui touche les 400 et quelques euros par mois, bizarrement, c'est beaucoup moins que l'indemnité chômage de l'ancien président de la République qu'il est. Donc le parasite, effectivement, s'il y en a un, eh ben, c'est pas le petit chômeur qui survit comme il peut, mais c'est bien Nicolas Sarkozy.
Alors le rapport recommande quand même de réduire les dépenses dans un triple souci de modernisation, de transparence et de maîtrise de la dépense publique. Bon, enfin, rappelez que tout ça, c'est quand même un peu une exception bien de chez nous, hein, depuis 1955. Alors, il y a eu des évolutions en cours de route, hein, mais que vers le haut, hein, évidemment, les évolutions. Les anciens présidents, juste que j'ai envie de vous le rappeler, ont droit, parce qu'ils sont quand même un petit peu assistés, quand même, à une dotation de 65 000 euros bruts à laquelle on peut ajouter une éventuelle indemnité de membre du Conseil constitutionnel de 14 400 euros brut mensuel, hein, et puis tout ça, vous pouvez cumuler avec des activités annexes, comme le fait monsieur Sarkozy avec ses conférences. Vous avez le droit, et ça date de 1985, grâce à monsieur Fabius, président de Mitterrand, premier ministre de Mitterrand, excusez-moi. Donc, nos ex-présidents ont le droit à un bureau meublé et équipé. Ils ont le droit aussi à une voiture de fonction avec des chauffeurs, des fonctionnaires de police chargés d'assurer leur protection, une carte illimitée pour voyager en classe affaires sur les réseaux SNCF Air France, et puis, ça, moi je trouve que c'est quand même le meilleur, c'est que lorsqu'ils voyagent à l'étranger, ils sont accueillis par les ambassadeurs de France qui vont assurer et assumer l'hébergement. Voilà, juste que c'était pour rappeler c'est quoi quand même un pays d'assisté. Moi je pensais que c'était quand même un peu ça. Et puis je vais terminer quand même cette semaine par celle qui a su être la risée de Twitter, ce réseau social très en vogue, n'est-ce pas,
Christine,
exactement, Madame Boutin, l'andouille de la semaine, excusez-moi, je n'ai pas su trouver d'autre expression que celle-ci, une andouille. Alors donc vous savez que Monsieur Chirac a été admis dimanche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, hein, pour une infection pulmonaire. Madame Chirac a été hospitalisée ce mardi, ils ont 83 ans tous les deux, et Madame Boutin a annoncé
la mort de Chirac.
Exactement, et le tweet, il est très clair, c'est mort de Chirac, point. C'est tout.
Elle l'a déjà enterré.
Elle l'avait enterré, tout à fait. Alors, il y avait eu des rumeurs, tout ça, des conneries qui étaient depuis le matin. Il y en a qui ont l'air pressés de faire du sensationnalisme sur la mort de Jacques Chirac. Mais Madame Boutin a continué sur RTL, par exemple, à dire qu'elle avait eu des bonnes sources, des bonnes informations et que, franchement, elle y a cru et qu'elle y croit toujours.
Bah, c'est trop, il est mort. Hein.
Oui, bah écoute, voilà. Bon, bah,
en tout cas, il va vers la mort.
Mais enfin, voilà, elle nous aura bien fait marrer Christine Boutin quand même, parce que alors là, dans le genre andouille de la semaine, ça se pose.
Alors on va aller maintenant en Israël-Palestine pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, puisque la situation est toujours la même, vous allez me dire que je me répète, mais quand même il y a quelques petites nouveautés. Donc une trentaine de Palestiniens ont été arrêtés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Donc Jérusalem-Est qui est toujours occupée, Cisjordanie qui est en grande partie occupée aussi. Ces 30 personnes ont été arrêtées en 2 jours. Alors si on suit ce que dit la police et l'armée, je vais vous le dire. Donc c'était soi-disant sur des soupçons de terrorisme, de violence, voire des détentions d'armes ou du trafic de drogue. Donc la police a arrêté 23 Palestiniens et saisi des armes ces 2 derniers jours dans le quartier d'Issaouia et le camp de réfugiés de Shawafat. Donc c'est du côté de Jérusalem-Est. Et l'armée, elle, a arrêté 12 Palestiniens en Cisjordanie. Bon, si vous comptez, ça fait 35, et j'ai dit une trentaine tout à l'heure. 35 très exactement, donc 12 par l'armée du côté de la Cisjordanie occupée par l'armée israélienne. Il y aurait, dans ces personnes arrêtées, 4 membres présumés du Hamas. Donc voilà, alors ces arrestations, elles interviennent après une semaine de remontée un petit peu des violences, hein, puisque 9 attaques ou tentatives d'attaque contre l'occupation et contre les Israéliens ont eu lieu depuis vendredi dernier, alors qu'il y avait eu un calme... un grand calme quand même pendant cet été, par rapport au printemps qu'on a connu, et puis au mois d'octobre, ça faisait 6 mois qu'il y avait régulièrement des violences un peu désespérées hein, de la part de certains Palestiniens et de Palestiniennes. Donc là, ça a redémarré la semaine dernière, du coup, Israël remet une couche d'autoritarisme et arrête un petit peu à tour de bras. Si on fait le bilan depuis un an, il y a au moins 230 Palestiniens qui ont été tués, 34 Israéliens, 2 Américains, 1 Jordanien, 1 Érythréen et 1 Soudanais. Les chiffres sont plus ou moins fiables, ça c'est le décompte de l'AFP, mais on n'est pas loin de ces chiffres-là. Voilà, alors... ce qui inquiète Israël, c'est que la renaissance, on va dire, ou l'augmentation de ces violences inquiète le gouvernement, puisque arrivent dans les semaines, dans les jours qui viennent, les grosses fêtes juives que sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, donc c'est début octobre. Et là, si c'est comme l'année dernière, la situation risque d'être compliquée. On sait que c'est aussi l'occasion de ces fêtes juives que l'extrême droite juive profite pour aller foutre le bordel sur l'esplanade des mosquées, lieu saint de l'islam, mais aussi lieu revendiqué par certains juifs intégristes, puisqu'il y a très longtemps le second temple juif qui a été détruit par les Romains en 70. Donc si vous comptez, on est en 2016, moins 70, c'est il y a plus de 1900 ans quand même. Hein. Il faut un peu vivre dans le présent plutôt que de vivre dans le passé, les gars. Enfin, en tout cas, c'est pas gagné. En tout cas, donc, la situation est tendue et c'est pas Israël qui fait un effort, hein, puisque pour l'instant, il y a aucune perspective de résolution du conflit, de l'occupation et de tout ça, puisque Israël, botte en touche, continue de soutenir la colonisation. Alors, des bonnes nouvelles, il y en a quelques-unes, enfin, il y en a une en tout cas. C'est 3 Palestiniens qui étaient... en détention, sous le couvert de la détention administrative, hein, on est arrêté sans aucun motif, vous êtes mis en prison et vous êtes libéré un jour et vous savez pas pourquoi, et ça peut durer des mois, des semaines, des années, sans qu'il y ait d'avocat, de juge, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est issu hein, de l'époque coloniale anglaise, cette mesure qui est restée. Donc là, ils étaient 3 à être en grève de la faim depuis 68, 77 et 79 jours. Et bonne nouvelle, ils ont arrêté leur grève de la faim. Donc c'est Malik Al-Kadi, puisqu'il a appris qu'il sera libéré, qu'il est libéré aujourd'hui, on ne sait pas s'il est sorti. Et les 2 autres, c'est Muhammad et Mahmoud Balboul, qui sont frères, qui seront libérés le 8 décembre prochain. Donc voilà, il remercie tous ceux qui les ont soutenus, et tous les autres prisonniers, qui étaient, dont certains ont fait des grèves de la faim aussi, pour soutenir leur combat contre la détention administrative. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, ils ne savent pas pourquoi ils ont été arrêtés, ils seront libérés quand même, ça c'est le principe de la détention administrative. Et puis en Cisjordanie, une Palestinienne hier a été blessée par balle à un checkpoint, donc par des gardes israéliens. Donc la jeune fille de 13 ans était blessée d'une balle à la jambe, a été conduite à l'hôpital. C'est le ministère de la Défense israélien qui raconte les choses. Et elle dit, elle s'est approchée, puis elle aurait dit qu'elle voulait mourir. Donc elle s'approche, une petite fille avec un petit sac. Les gardes la trouvent suspecte. Il lui dit de s'arrêter, elle continue d'avancer, et quand on a une petite fille de 13 ans qui avance, on lui tire dessus. Donc ils l'ont tiré dessus, ils l'ont fouillé, il n'y avait rien, elle avait un petit sac de petite fille, hein. Elle n'avait pas de bombe, il n'y avait pas de truc louche. Mais bon, ils l'ont quand même tiré dessus, ils l'ont emmené à l'hôpital. Donc voilà, alors bon, je sais pas si elle avait vraiment envie de mourir, de se suicider. On sait que quand même une partie de la population est vraiment désespérée, et bah, le désespoir peut tomber aussi sur une enfant hein, de 13 ans. Il n'y a pas de souci possible quand on est une armée d'occupation 24 heures sur 24 chez vous, avec les brimades qu'on connaît, ça peut effectivement pousser à des comportements un petit peu irrationnels. Et puis pour terminer cette partie palestinienne, un petit mot local, cette fois-ci on va à Toulouse. Aujourd'hui, là, il y avait un procès de 4 membres de BDS. BDS, c'est la campagne boycott des investissements sanctions, la campagne d'appel au boycott des produits israéliens fabriqués dans les colonies illégales. Et donc, il y avait 4 militants qui passaient devant le tribunal d'instance de Toulouse pour, je cite, « entrave à l'exercice normal d'une activité économique ». Alors, c'est horrible, hein, cette entrave à l'exercice normal d'une activité économique, parce que, bon, voilà, vous faites une manifestation dans la rue, si elle n'est pas autorisée, si vous bloquez l'accès à un magasin, ne serait-ce que 2 minutes, vous pouvez être poursuivi. Hein. Dès que vous dites que un truc est mal et que ça se vend, vous pouvez être poursuivi sur ce prétexte-là. C'est un vrai truc liberticide qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons, pas sous cette forme. C'est pour ça que les campagnes de boycott sont beaucoup plus répandues dans les pays anglo-saxons. Ce qui fait que, avec cet argument-là, le boycott en France n'est pas autorisé. Ça n'empêche pas d'appeler au boycott et d'y aller jusqu'au bout. Hein. C'est ce que nous on fait ici dans le Canu Info sur la campagne BDS, et c'est ce que font ces militants. Ils sont intervenus dans un supermarché et certains ont été arrêtés et donc sont poursuivis. Et donc le procès a lieu aujourd'hui, on n'a pas la réponse encore, on l'aura peut-être pas tout de suite, mais en tout cas le collectif local de soutien à la Palestine et les militants de BDS avaient prévu une manifestation, enfin un rassemblement de soutien devant le tribunal aujourd'hui. Et elle a été interdite par la préfecture. Alors le prétexte, alors c'est pas les risques d'attentats, ils en ont trouvé un autre. Ils ont dit, attendez, il y a une autre asso qui s'appelle All With Us, c'est une asso dont le but est de réunir les amis d'Israël, grosso modo c'est l'extrême droite pro-juive, pro-Israël française, hein, pro-sioniste, on utilise un peu les mots qu'on veut, mais c'est ceux qui soutiennent la politique colonialiste d'Israël, qui sont souvent des militants d'extrême droite, hein, qui sont derrière cet asso, et qui avaient déposé aussi le même rassemblement devant. Et la préfecture, plutôt que de dire que les militants BDS l'avaient déposé il y a 2 mois et qu'ils étaient un petit peu légitimes, elle a dit, bah non, j'interdis tout. Voilà. Alors les militants de BDS sont quand même allés aujourd'hui braver l'interdiction et ont manifesté, ils étaient plusieurs dizaines, on n'a pas d'infos, savoir s'il y a eu des arrestations ou pas. A priori, quand même, les autres, ils voulaient pas manifester, c'était juste pour faire interdire la manifestation, et la préfecture est tombée dans le panneau. De toute façon, la préfecture, elle tombe vite dans le panneau hein, quand c'est pour être du côté de l'extrême droite. Donc voilà, on soutient quand même les militants qui luttent pour cette campagne de boycott des produits israéliens fabriqués dans les colonies illégales.
Alors les semaines dernières, on parlait de la Hongrie, on parlait de la rentrée des classes avec une mise en avant de Monsieur Orban. Cette semaine, nous allons partir en Turquie puisque c'est aussi la rentrée des classes. Cette rentrée concerne 18 millions d'élèves, et c'est une rentrée scolaire évidemment marquée par l'absence de dizaines de milliers d'enseignants qui ont été limogés pour des liens présumés avec les putschistes ou avec le PKK. Ça dépend, c'est variable. Alors, le chiffre.
Voilà, ça va de, grosso modo, les soutiens PKK à l'extrême gauche.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Non, mais voilà, il y en a qui ont même rien fait. Hein. Ouais. Enfin, une grande majorité.
Ils ont ratissé très large.
Oui, oui, oui. Alors, le chiffre, d'ailleurs, est en constante évolution. On parle de 30 000. Certains syndicats des enseignants parlent de 40 000.
Moi, ouais, j'avais même vu 50 000.
Donc, voilà, les chiffres sont encore un peu flous. Alors, les élèves aussi ont été bien accueillis. Alors, d'abord, les écoles ont été pavoisées de drapeaux turcs, bien évidemment. Et puis, à leur arrivée, les élèves ont dû observer une minute de silence en mémoire des martyrs et prier pour eux, hein, les martyrs du putsch, bien évidemment. Ça, c'était les instructions du ministère de l'Éducation. Les élèves ont eu droit aussi à deux vidéos qui rappellent les événements de la nuit du putsch. Alors, c'est pas mal, moi j'en ai vu, je les ai vus. Il y en a une où il y a la voix de Monsieur Erdogan qui récite l'hymne national. C'est particulier quand même, hein, je dois vous dire. Les élèves ont récupéré une brochure sur le triomphe de la démocratie le 15 juillet et en mémoire des martyrs. Donc une rentrée scolaire sous le signe de la propagande de M. Erdogan et de ses amis. C'est particulier quand même, hein. Alors ça, tous ces absences d'enseignants, bah ça amène des classes surchargées. On a appris aussi qu'un certain nombre de parents n'avaient pas voulu envoyer les enfants à l'école, donc il y a un taux d'absentéisme qui peut-être va pouvoir rattraper le fait qu'il manque des profs, je ne sais pas, hein, allez savoir. En tout cas, il y a des pétitions, des rassemblements qui sont organisés par les parents d'élèves et les enseignants. Simplement, il faut bien se dire que aujourd'hui, se mobiliser en Turquie, c'est pas simple. Il y en a déjà qui ont eu des problèmes justement à cause de ces pétitions, à cause des slogans, à cause de leurs discours sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est quand même dangereux d'ouvrir sa gueule en Turquie. Et ça touche tout le monde, de l'extrême gauche aux militants, aux résistants, mais aussi aux parents d'élèves, voilà, qui sont obligés de s'engager, il faut bien le dire.
Bah alors, un autre endroit où il peut être dangereux, surtout si on est noir, c'est les États-Unis d'Amérique, puisque vous avez peut-être entendu, il y a deux jours, un noir américain de 43 ans, si je me trompe pas, a été tué par la police. Donc la police dit, par un policier qui est lui-même noir. Hein, ce qui ne justifie rien, puisque quand on est policier noir, on rentre vite dans le même comportement qu'un policier blanc, et quand on voit un noir, on le suspecte d'office. Enfin, voilà, le transfert du racisme, il existe en interne chez les forces de répression comme ça. C'est pas surprenant non plus. Donc voilà, il a été donc tué. Alors il aurait eu un pistolet. Alors les avis divergent. La police dit un pistolet. Les manifestants, ses amis, ses proches surtout disent qu'il avait juste un livre à la main. Donc on verra ce que ça donne, est-ce que donnera. S'il y aura une enquête, une vraie enquête administrative. Hein, souvent c'est pas le cas. De toute façon, même quand il y a des enquêtes et qu'on a toutes les preuves, la justice elle innocente en général le policier quand même. On rappelle qu'un noir a 9 fois plus de malchance de mourir face à la police qu'un blanc. Il y a une vraie discrimination. Du coup, c'est parti en violences urbaines. Donc hier, cette nuit de mercredi à ce jeudi 22 septembre, c'est à nouveau des émeutes dans cette ville de Charlotte. Alors on est en Caroline du Nord. Alors Caroline du Nord, même s'il y a le mot Nord, c'est le premier état du Sud, le plus au nord du Sud des États-Unis. Donc on est bien chez les ploucs, hein, on va dire, pour parler poliment. On est vraiment dans le sud des États-Unis, donc voilà, ça a cartonné un petit peu pendant cette nuit, un peu comme d'habitude. Ce qu'on notera, c'est que le gouverneur de l'État de Caroline du Nord s'est exprimé. Je vais citer ce qu'il a dit. Vous allez voir un petit peu que c'est pas piqué des hannetons. Il a dit, je cite, « J'ai décrété l'état d'urgence et pris l'initiative de déployer la garde nationale et la police autoroutière pour aider la police locale à Charlotte. Nous ne pouvons pas tolérer la violence. Nous ne pouvons pas tolérer la destruction des propriétés et nous ne tolérerons pas les attaques contre nos policiers qui se produisent en ce moment. » Oui, alors par contre, il a jamais condamné les attaques des policiers contre les Blacks. Hein. Bizarre quand même. Hein. Donc ça, il tolère. Il tolère les assassinats. Il y en a plein. C'est vraiment très régulier aux États-Unis. Donc voilà, alors, dans les événements de cette nuit, il y aurait eu un blessé. On ne sait pas dans quelles circonstances exactement. Et il y a eu 44 arrestations quand même de manifestants. Contre les violences policières. Alors c'est une sorte de manifestation récurrente finalement aux États-Unis. Alors plus particulièrement dans les États du Sud, mais aussi un peu dans d'autres États aux États-Unis, hein, où la mortalité des Blacks est beaucoup plus importante face aux policiers. Et ça fait deux jours que ça dure, hein, puisque la veille, la manif qui avait d'abord commencé pacifiquement a vite dégénéré. Alors bien sûr, la police accuse des casseurs, comme chez nous, ils appellent ça des agitateurs. Mais grosso modo, les agitateurs, ce sont des gens qui sont excédés par ce climat d'insécurité et de violence de la part de la police, bien évidemment. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On aura peut-être des nouvelles dans les jours qui viennent pour savoir ce qui va, si on aura la vérité, est-ce qu'on l'a un jour, sur Brent Lewinson, donc le policier qui a tiré sur Kes Lamonte Scott. On notera que si c'est comme en France, hein, le jeune Black qui est mort en France au début de l'été, finalement pour l'instant c'est quand même très très louche ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, lors d'une arrestation, quelqu'un est décédé en France. Bon, on n'a pas les circonstances. Il est peut-être tombé tout seul. Ça arrive souvent, j'ai l'impression, dans les arrestations.
Il paraît qu'il a eu un problème respiratoire.
C'est classique. Ils leur font les compressions qu'il faut pas, là, qui tuent les gens. Bon, bref, voilà, les violences policières, c'est assez courant dans les démocraties. Je parle pas de la Turquie, hein, parce que les régimes qui tendent vers les régimes autoritaires, là, effectivement, c'est une autre échelle, on dira.
Alors, on va ouvrir un gros dossier dans ce Canu Info. On va parler du procès de la famille Wildenstein. grande dynastie de marchands d'art. Alors c'est un procès qui avait commencé il y a plusieurs mois. Il a été suspendu en début d'année une première fois. Et aujourd'hui, il reprenait le procès devant le tribunal correctionnel de Paris de cette famille. Il est très riche, immensément riche. Alors il s'agit d'une affaire de fraude fiscale plutôt inédite. On va parler politique, fraude, trust, succession, guerre familiale. J'ai essayé de faire court sur un tel dossier, c'est pas possible, il faut vous le dire. Guy Wedelstein est le principal prévenu dans l'affaire, dans cette affaire de fraude fiscale. Il lui est reproché d'avoir dissimulé au fisc une immense partie de la fortune de son père Daniel, décédé en 2001, et d'avoir continué sa fraude après la mort en 2008 de l'autre héritier, son frère aîné Alec. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. À ses côtés, on va trouver son neveu Alec Junior, accusé de fraude fiscale, la veuve de son frère Alec Liuba, on trouve un notaire, deux avocats et deux sociétés gestionnaires de trust, l'une des Bahamas et l'autre de Guernesey. Voilà un petit peu pour le tableau et les présentations. Alors il faut savoir que les biens de la famille sont enregistrés dans des paradis fiscaux, dans ces trusts. Alors ces trusts, hein, c'est des structures de droit anglo-saxon. C'est des outils opaques hein, qui va tout simplement vous permettre, à vous là qui nous écoutez, de dissimuler votre patrimoine au fisc.
Ah bah oui, parce que je réfléchissais là, comment j'allais dissimuler mon patrimoine.
Et ben voilà. Et ben cette dynastie, il faut le dire, quand même, accumule les toiles depuis plus d'un siècle. On parle de milliards quand on parle de la fortune. Ce sont des œuvres, des tableaux qui ne sont pas déclarés au fisc français, puisque tout ceci est logé dans des trusts qui sont donc les Bahamas, par exemple. Alors on va trouver hein, dans ces œuvres des Degas, des Monet, des Picasso, qui sont en fait dans des coffres-forts, hein, dans une banque, c'est ce qu'il faut vous dire.
C'est intéressant d'avoir des œuvres d'art et de les mettre dans des coffres-forts.
Si, c'est intéressant parce que ça permet de les gager, d'obtenir de l'argent en retour et de pouvoir après faire fructifier autrement cet argent.
Donc ils n'ont pas des œuvres d'art en fait, ils ont des lingots d'or quelque part.
C'est ça, c'est du blanchiment hein, tout simplement. Alors c'est pas évidemment la famille qui s'en occupait, c'est bien ce trust, c'est-à-dire un gestionnaire chargé de bonifier hein, ce pognon, de préférence donc en passant par des pays où la fiscalité est tout à fait intéressante, voire carrément nulle, bien évidemment. Alors, l'objectif de tout ce fonctionnement, c'est de conserver l'argent le plus longtemps possible au sein de la famille, pour que ça soit en fait les enfants qui puissent s'en servir, et tout ça sans payer de droits de succession. Alors, la famille Wedelstein a des trusts au Caïman, aux Bahamas et à Guernesey, pour ce qu'on en sait. Les magistrats ont découvert un patrimoine absolument gigantesque. La famille a caché tout un tas de trucs. Il y a une propriété de 30 000 hectares au Kenya, un îlot aux îles Vierges britanniques, un appartement à New York, des chevaux de course, des écuries, des dizaines de tableaux, un jet privé. Voilà, hein, la vie de riche, bien évidemment. Alors, le fisc estime que les fils Alec et Guy auraient dû déclarer au moment du décès de leur papa 616 millions d'euros et non pas les environ 41 millions qu'ils ont fini par déclarer au fisc français. Alors du côté de la défense de la famille, on explique que jusqu'à présent, d'après la jurisprudence, les biens placés dans les trusts n'avaient pas à être déclarés en succession, c'est-à-dire que comme ils étaient sortis du patrimoine, on voit pas pourquoi on devrait les déclarer. Vous suivez la logique, hein, c'est-à-dire extraire, cacher, hein, finalement, pour que ça soit pas taxé. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on retrouve ces trusts sur le banc des accusés, et ça c'est une première en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir de comment tout ça est arrivé. Les ennuis ont commencé à la mort de Daniel, le papa, le 23 octobre 2001. Trois veuves s'estiment lésées à un moment dans la succession et vont se dresser contre les deux héritiers mâles.
Et donc, on va balancer le système, en fait.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais effectivement, les veuves vont livrer aux enquêteurs des informations sur les montages financiers des frangins, le nom des sociétés dans les paradis fiscaux. Donc, les magistrats vont mettre les deux pieds et les deux mains dedans. Alors, il faut savoir que ça a commencé avec Sylvia Wildenstein. Les deux enfants, Guy et Alec, vont expliquer à leur belle-mère que, en fait, son mari était ruiné et que donc, en fait, ils peuvent pas lui donner de l'argent de l'héritage. Donc, elle va signer une lettre de renonciation à la succession. Mais très rapidement, elle va se dire qu'elle s'est fait un petit peu avoir, la Sylvia. Elle va travailler avec une avocate, Claude Dumont-Bégui, qui, elle, va rien lâcher. Mais il faut dire que Sylvia, elle s'est étonnée un petit peu d'un tas de choses qu'elle a trouvées, que c'était un peu de la malversation. Alors moi, j'ai retenu une truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des opérations immobilières alors que le mari était dans le coma.
Ah oui, c'est pas mal, ça.
Donc, les deux fils, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? C'est bien là, un petit peu, la question aussi de ce procès. Donc, l'avocat va continuer. Elle a même continué. Elle continue à se battre, même après la mort de Sylvia Wildenstein. La veuve va découvrir, en tout cas, quand elle était encore en vie, que toute une partie de la succession lui a échappé. Par exemple, elle s'était aussi étonnée que des tableaux qu'elle avait eu le plaisir de voir, soit dans le coffre d'une banque, soit en prenant son petit déjeuner, ben, ils apparaissaient pas dans le listing de la succession, donc ils étaient soi-disant perdus et volés, elle savait pas bien. En tout cas, c'est ce qu'on lui a raconté. Et puis, il y a une autre épouse qui va s'y mettre, c'est Jocelyne Wildenstein, c'est l'épouse d'Alec Wildenstein. La Jocelyne, vous la connaissez certainement parce que c'est celle qui est la femme de la chirurgie esthétique, elle a une tronche un petit peu bizarre maintenant. Elle est connue pour ça. Elle va obtenir une rente annuelle, elle aussi, après être tombée sur le dos des frangins. Et puis, il y a Lioubia dont je vous ai parlé, qui est aujourd'hui sur le banc des accusés. Mais il faut savoir que c'est elle qui a fini d'ouvrir la porte aux magistrats. Elle a, par exemple, ouvert des informations qui a permis de trouver une trentaine de tableaux qui étaient, eux, notés comme volés ou disparus dans la famille. Donc, elle a refait ressortir tout un tas d'informations. Alors, je vous disais, Maître Dumont-Bégui s'est battu. En 2009, elle a alerté Bercy. Elle a déposé une plainte à ce moment-là au parquet de Paris, une plainte au pénal pour abus de confiance, il se passe rien. L'année d'après, elle pose une autre plainte avec une constitution de partie civile, ce qui oblige le parquet à désigner un juge d'instruction. Et là, et ben, tout s'emballe. Quelques mois plus tard, les policiers de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière perquisitionnent l'Institut Wildenstein. Et alors là, tombe, on trouve des tonnes de trucs. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est carrément ça. Vraiment, il faut imaginer que les magistrats sont tombés, les enquêteurs sont tombés sur des toiles, des œuvres en pagaille. Et c'est à ce moment-là où Guy Wildenstein, en 2011, est mis en examen pour recel d'abus de confiance. Et à ce moment-là, trois semaines plus tard, Bercy va enfin déposer une plainte pour fraude fiscale dans le volet de la succession. Alors que ça faisait déjà 2 ans que Bercy était au courant qu'il y avait eu des problèmes, qu'il y avait eu des premiers signalements. Alors, les Wildenstein se sont vus notifier un redressement de 550 millions d'euros. C'est un record, un redressement qu'évidemment ils contestent dans la famille. Le truc, c'est qu'à ce jour, il n'y a rien qui est versé. Le litige est toujours en cours. Et la grande question sur laquelle se basent les avocats de la famille, c'est: peut-on juger pénalement quelqu'un pour fraude fiscale sans qu'il soit formellement redressé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire aller en parallèle, se mettre en parallèle ces deux procès, ces deux charges, en tout cas un procès et une attaque de la part du fisc? Alors, le Conseil constitutionnel a validé cet été les doubles poursuites en matière fiscale, ce qui permet donc la réouverture de ce procès Wildenstein. Et d'ailleurs, ça a permis aussi la réouverture, enfin le procès Cahuzac. Tout ça est aussi lié. Alors, il y a une petite réserve malgré tout, c'est qu'on ne peut pas poursuivre pénalement pour fraude fiscale un contribuable dont le redressement n'est pas définitif. Or, les Wildenstein attaquent ce redressement, donc tout ça est bloqué. C'est bien sûr ça que joue aussi la famille, très clairement. Alors, on en est là pour l'instant. Mais ce qui était intéressant aussi de revenir sur ce sujet, c'est les petits arrangements entre amis. Parce que, avant d'être poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, Monsieur Guy Wildenstein a longtemps profité d'une impunité offerte par ses amis politiques. Il faut se souvenir qu'il est membre fondateur de l'UMP. L'UMP, si vous êtes très jeune, c'est l'ancien LR. Et Guy Wildenstein compte parmi les plus gros donateurs du parti. C'est un généreux mécène. C'est un proche de Monsieur Sarkozy. Donc, on peut se demander si finalement il n'a pas été aussi un moment protégés. Je vous rappelle qu'on a en France cette bonne idée que c'est le ministre budget qui peut décider d'engager des poursuites pour fraude fiscale. Et à l'époque, c'était Monsieur Woerth, trésorier de l'UMP, qui avait bloqué les demandes du fisc et qui n'avait pas permis qu'il y ait des poursuites pour fraude fiscale à l'encontre de Monsieur Wedelstein. Et c'est finalement François Baroin qui, face à cette procédure judiciaire dont je vous parlais tout à l'heure, a bien dû lancer cette procédure contre le marchand d'art. Voilà, Guy Wedelstein, il a occupé une place très très importante à droite auprès de Monsieur Sarkozy et de ses amis. Ça a été une figure très influente lors de sa campagne 2007, pas forcément sur le devant de la scène, mais très très présent, financièrement. On lui a même remis en 2009 une Légion d'honneur, hein, certainement pour le récompenser.
D'avoir triché.
Voilà, d'avoir triché. Donc voilà.
Alors, d'avoir triché, on dit ça. La fraude fiscale, c'est le vol. C'est le vol que font les riches. Hein.
Oui, et donc là, c'est un système très très organisé auquel seuls les riches peuvent très sincèrement se lancer dans telle affaire et tel processus. Voilà, donc je voulais refaire un petit tour là-dessus parce qu'on y retrouve quand même tout, hein, c'est-à-dire les liens avec la politique qui ont certainement permis à cette famille d'être bien protégée pendant des années. Là, on parlait de l'UMP, mais c'est une famille qui est très ancienne, donc on peut penser que grâce à son argent, elle l'a toujours été. Une famille qui s'est pas gênée pour faire de la fraude fiscale, qui s'est aussi déchirée en interne comme savent le faire les familles très riches, hein, qui s'est déchirée au moment de la succession. Tout ça est très drôle puisque finalement c'est les veuves, les femmes de la famille qui se sont rebellées contre les mâles qui avaient tout le pognon et qui ont fait tomber finalement la famille. Voilà, donc je n'ai pas d'autres informations sur le report aujourd'hui ou non, lorsque nous avons cessé de être devant nos ordinateurs. L'info n'était pas tombée.
Alors on va parler de prison, peut-être un jour ils finiront en prison, quoique les gros voleurs comme ça, trop riches, ils finissent pas forcément en prison. Contrairement au petit voleur du coin de la rue qui lui a des chances de finir en taule. Et ben justement, je vais vous lire le communiqué qui a été écrit par pas mal de gens. On retrouve dedans le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, le Génépi, le Bon Public, voilà, plein de gens. Autour du nouveau projet de construction de nouvelles prisons, puisqu'il paraît que les prisons sont pleines, bon, ça on le sait, et il paraît que la seule solution c'est d'en construire, et pas de faire sortir les gens dans des peines alternatives. Donc je cite de ce communiqué, 69 375, c'est le nombre de personnes qui étaient détenues dans les prisons en juillet dernier, la France atteignant ainsi des taux de détention inégalés depuis le 19e siècle, contraignant ainsi 3 à 4 personnes à partager des cellules de 9 mètres carrés en maison d'arrêt et autour de 1500 personnes à dormir chaque nuit sur des matelas posés au sol. Au mépris du principe de l'encellulement individuel et de la dignité des personnes, près de 15 000 personnes sont en surnombre et une quarantaine de maisons d'arrêt connaissent un taux d'occupation de plus de 150%. Pour y remédier, le gouvernement annonce la construction de 10 000 nouvelles places de prison pour l'horizon 2024. Une réponse ambitieuse et audacieuse? Non, pas du tout. Une vieille recette qui a déjà fait la preuve de son inefficacité et que les gouvernements successifs continuent pourtant de nous servir comme la seule solution pragmatique, restant sourd aux résultats de nombreuses études et statistiques qui la pointent au contraire comme inopérante, que ce soit pour endiguer la surpopulation carcérale ou pour réduire la récidive. Que disent les chiffres? Que depuis 25 ans, près de 30 000 places de prison ont été construites. On a doublé, hein. Un effort immobilier inédit entraînant une hausse de 60% du parc pénitentiaire. Sans effet cependant sur la surpopulation carcérale, car dans le même temps, le pays a emprisonné toujours plus et de plus en plus longtemps sous le coup de politiques pénales essentiellement répressives. Des politiques qui seraient rendues nécessaires par une insécurité grandissante, entend-on dire. Une idée reçue là aussi démentie par la réalité, le taux de criminalité étant globalement stable et le même les homicides et violences sexuelles ayant diminué ces dernières années. En France, comme ailleurs, la courbe du nombre de personnes détenues n'est pas tant liée à celle de la délinquance qu'au choix de politique pénale des gouvernants. Des politiques qui se sont concrétisées dans notre pays par l'allongement de la durée moyenne de détention et par une incarcération massive pour des petits délits, avec une augmentation de plus de 33% du nombre de détenus condamnés à des peines de moins de 1 an de prison. De 1 an à 5 ans. Surtout, construire plus de prisons, ce n'est pas mieux protéger la société. Au contraire, la prison produit ce qu'elle entend combattre. elle aggrave l'ensemble des facteurs de délinquance en fragilisant les liens familiaux, les liens sociaux, les liens professionnels. Elle favorise les fréquentations criminogènes et n'offre qu'une prise en charge lacunaire, voire inexistante, face aux nombreuses problématiques rencontrées par la population carcérale en matière d'addiction, de troubles psychiatriques, d'éducation, de logement, d'emploi, etc., etc. Conséquence, 61% des personnes condamnées à une peine de prison ferme récidivent et sont réincarcérées dans les 5 ans. Des chiffres qui tombent à 34 et 32%. Alors 34 pour une peine alternative à la prison comme le travail d'intérêt général et à 32% de récidive pour le sursis avec mise à l'épreuve. Donc c'est quand même bien plus efficace que les 61% de récidive quand on est juste mis en prison. Alors tandis que les moyens manquent cruellement au personnel et aux structures qui assurent l'accompagnement socio-éducatif et l'hébergement des sortants de prison et personnes condamnées en million vert, le gouvernement prévoit d'injecter 3 milliards d'euros supplémentaires aux 5 milliards déjà engloutis dans l'accroissement et la sécurisation du parc pénitentiaire en une décennie. Alors où plusieurs de nos voisins européens ferment des prisons, où les États-Unis réalisent que l'incarcération de masse les a menés dans une impasse coûteuse et inefficace, la France, elle, fait le choix d'une continuité aux coûts économiques, sociaux et humains exorbitants. Pour lutter efficacement contre l'inflation de la population pénale et carcérale, c'est d'une politique pénale humaniste, ambitieuse, audacieuse, visant à investir massivement dans la prévention, l'accompagnement et le suivi en milieu vert dont notre société a besoin. Voilà le communiqué interassociatif, comme ils disent, signé donc par pas mal de gens dont, là je l'ai récupéré sur le syndicat de la magistrature. Voilà, et ça résume à peu près ce qu'on sait sur les prisons et sur les peines alternatives. On l'a vu, hein, y a des pays qui vont même louer du nord de l'Europe, qui louent leurs prisons, par exemple à la Belgique, parce que elles sont vides, parce qu'ils ont fait des peines alternatives, ce qui baisse la délinquance, et ce qui coûte très peu cher par rapport à l'incarcération. Donc il y a des coûts humains importants, des coûts financiers qui sont non négligeables aussi, et qui donnent l'exemple, mais pas à la France, vraisemblablement. Donc voilà, on est rentré, on continue cette politique d'incarcération systématique, sauf pour les très riches. Hein, ils vont un peu moins en prison, les gros voleurs, hein, ceux qui volent le fisc, par exemple. Donc voilà, c'était ce petit communiqué qui est assez représentatif de ce qu'on fait en matière de répression et d'incarcération.
Alors, je ne sais pas si tu le savais, Laurent, mais du 19 au 24 septembre, l'Assemblée des départements de France organise une semaine nationale de mobilisation pour dénoncer la baisse des moyens d'action des départements liés au désengagement financier de l'État depuis de nombreuses années.
Oui, non.
Non, tu le savais pas. Alors moi, je le savais pas non plus, jusqu'à ce que j'apprenne la bien bonne idée, le plan com de monsieur Pascal Coste, président du conseil départemental de Corrèze. Il a droite, hein, comme ça c'est fait. Alors, il s'est dit qu'il fallait faire une action symbolique forte, et que c'était important, donc il a eu la bonne idée aujourd'hui d'appeler les fonctionnaires passer en mode dégradé.
C'est-à-dire à faire grève, quoi? Des grèves du zèle, des trucs un peu comme ça?
Le terme n'est pas sur le papier que j'ai récupéré sur le site internet du département de Corrèze. Mais alors oui, il y avait un service minimum pour les cantines des collèges avec des repas froids, la modification des circuits de transport scolaire, blabla, l'annulation de toutes les réunions, rendez-vous et blablabla, la fermeture de tous les services recevant du public. C'est ça, dégradé. C'est-à-dire qu'il a fait en bas. C'est-à-dire qu'il a un peu fermé, il a un peu fait grève. Alors c'était de 7h à 12h, hein, ce qu'il appelait à cette grande mobilisation.
Non, mais c'est pas tous les jours que quelqu'un de droite appelle à faire une sorte de grève.
Ouais, une sorte de grève. Hein.
Oui, bah, il faut pas aller trop
il a appelé les agents à se réunir à 10h devant l'hôtel du département. Bon, ça a un peu surpris les gens sur place. Je peux te le dire, un tel plan de communication. Du côté de la CGT, on a demandé aux agents de ne pas participer à cette initiative.
Heureusement, dis donc.
Et puis la CGT, comme d'ailleurs l'opposition socialiste, rappelle qu'il y a une neutralité des fonctionnaires et que là, bon, c'est un petit peu curieux que les agents aillent soutenir leurs élus de cette manière. Alors peut-être qu'on pourrait inviter du coup les syndicalistes et les travailleurs à aller faire une petite grève pour lui montrer qu'effectivement, ils sont inquiets sur la baisse des dotations. C'est tout à fait vrai, mais pas tout à fait comme lui. Du côté du Parti Socialiste, le maire de Tulle, Bernard Combes, parle de Corée du Nord, hein, il explique qu'on va se retrouver en Corée du Nord dans pas longtemps. C'est vrai que c'était un peu curieux puisqu'il n'en a parlé à personne. Il a pris cette bien bonne décision. Alors sur Internet, hein, il se vante d'avoir 800 personnes qui soient venues à son rassemblement à Elisa.
Ouais, enfin, il a donné des ordres à des salariés dont il est le chef. Voilà. Donc forcément, il y en a une partie qui avait un petit peu peur et qui sont allés. Je pense que ça s'est joué aussi.
Alors,
comme
moi,
ça.
Moi, sur les photos, j'en vois pas 800, mais il paraît qu'après les photos, c'est toujours un peu trompeur. Ouais. Alors bon, je veux bien croire. Mais voilà, c'est donc ce terme de dégradé qui est intéressant. Il y a des réalités dans la fonction publique territoriale. Il y a besoin d'argent, il y en manque. Ben voilà. Lui, c'est un drôle de plan de campagne qu'il a mis en place en faisant ralentir ses fonctionnaires pour sensibiliser les Corréziens à la situation financière de son département. Une méthode bizarre.
Alors, on va parler un petit peu d'inégalité au travail, mais sous un angle un petit peu original, sous l'angle environnemental. Alors, on sait qu'aujourd'hui, hein, qu'un salarié sur trois respire des fumées ou des poussières, ou est en contact avec des produits dangereux pour la santé sur son lieu de travail. Donc, c'est un sur trois, c'est quand même pas mal, hein, donc 33% si on calcule bien. Enfin, 30%. 1 sur 10 est même exposé à au moins un produit cancérigène. Et là, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est les pauvres qui morflent. Les travailleurs, voilà, les ouvriers, les employés, et beaucoup moins les cadres, les chefs, tout ça. Alors, on savait très bien l'impact sur le physique, hein, quand un maçon, un ouvrier de maçonnerie du bâtiment porte des sacs de ciment, on sait bien qu'il se bousille le dos, hein, qu'il s'abîme le corps. Mais il respire aussi cette poussière de silice qui s'incruste petit à petit et qui lui dégrade la santé. Donc, grosso modo, hein, c'est ça. Les chiffres, c'est un tiers des salariés qui sont exposés à des risques d'infection. Alors ça, c'est essentiellement pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. 3 sur 10 respirent des poussières ou sont en contact avec des produits dangereux. Alors c'est des chiffres qui sont donnés par le ministère du Travail, hein. C'est pas une invention d'écolo ou de gauchiste patenté. Non, pas du tout. Alors, jusque-là, bon, ok, on les voit, ces nuisances. Alors, l'inégalité, elle se situe, eh ben, vraiment, dans les personnes concernées. Alors, par exemple, on a 2/3 des ouvriers qui respirent des fumées ou des poussières. 2/3. Pour les cadres, c'est beaucoup moins, c'est 1/10. 1/10. Ah bah oui, hein, 2/3, donc on a 30%, 1/10, c'est 10%. 3 fois moins pour les cadres. Il y a 5 fois plus d'ouvriers que de cadres qui subissent des nuisances sonores. Avec les dégradations que ça entraîne, insomnie, enfin bon, voilà. 52% des ouvriers sont en contact avec des produits dangereux, seulement 13% des cadres. Alors je dirais seulement, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. Il faudrait qu'il y ait que 13% des ouvriers qui soient confrontés à ces produits dangereux. Alors c'est pareil, bon, si on regarde ouvriers, on a dit cadres ou ingénieurs, les employés, grosso modo, sont 2 fois plus nombreux que les cadres à être à être exposé à des risques infectieux. Là, on est plutôt dans le milieu médical. Enfin voilà, tous les chiffres. Alors, bon, j'ai des super tableaux. Je vais pas tous vous les décrire, mais grosso modo, que ça soit les produits dangereux, les fumées ou les poussières toxiques, les risques infectieux ou les produits cancérigènes ou les nuisances sonores. Eh ben, grosso modo, les ouvriers, ensuite les employés, ensuite les professions intermédiaires, et enfin les cadres sont les moins touchés. Et ça va de 10% pour les cadres à 60% pour les ouvriers pour certaines choses, quoi. Hein. Donc c'est, il y a une vraie inégalité face aux dangers écologiques, aux dangers sur la santé, au travail, hein. Et pas qu'à travers les effets du travail physique, par exemple, mais aussi à travers la dégradation de l'environnement dans lequel se situent les salariés. Alors, même si les conditions se sont améliorées, on a noté par exemple que les conditions sur les poussières se sont beaucoup améliorées et restent stables depuis 2005. Par contre, les dégradations sur les autres problématiques environnementales, produits cancérigènes, toxiques, se sont dégradées entre 2005 et 2013 pour les ouvriers, mais pas du tout pour les cadres ou les ingénieurs. Ça veut dire que depuis une dizaine d'années, la situation est reparti dans le sens de la dégradation pour les employés et pour les ouvriers. Hein, alors que pour les cadres, les situations restent constantes. Donc voilà, bon, on pourrait discuter des heures et des heures sur tous ces chiffres. Grosso modo, l'inégalité, on la connaît dans le salaire, on la connaît dans les efforts physiques et donc dans le corps qui s'abîme. On la connaît un peu moins dans la destruction de la santé liée à un environnement dégradé. Et puis pour terminer, il y a une autre inégalité qui est dans cette analyse de chiffres, c'est que les femmes subissent moins de produits toxiques et cancérigènes que les hommes. Hein, par exemple, 2,5 fois plus d'hommes que de femmes respirent des fumées ou des poussières, donc dangereuses à la santé. 2 fois plus d'hommes travaillent en contact avec des produits dangereux. Alors, c'est lié en fait à la sexualisation des métiers, ça. C'est pas lié à une volonté des pouvoirs publics de protéger les femmes, pas du tout. C'est lié à une sexualisation des métiers. Pour preuve, quand on regarde sur le risque infectieux, c'est l'inverse. Les femmes sont surexposées. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de femmes dans le milieu de la santé ou du médical. Voilà. Donc, c'était pour parler un petit peu d'inégalité face à l'environnement. Alors, l'inégalité des sexes, elle est juste anecdotique. Hein. C'est parce que les métiers sont très sexués, encore aujourd'hui, malheureusement. Et par contre, le reste, c'est comme d'habitude. Hein. C'est les pauvres, les travailleurs, ceux qui ont des métiers un peu pourris, qui en souffrent de tous les côtés. Allez, puis je termine moi par une petite info un peu marrante. J'ai trouvé ça sur un site écolo qui notait les bénéfices écologiques du cannabis. Alors, à la place de cannabis, on va mettre chanvre, hein, ça sera plus intéressant parce que c'est pas tant du cannabis dont il est question, mais du chanvre, de la plante. Donc il nous explique effectivement que le chanvre était une plante très utilisée, hein, de tout temps et depuis très très longtemps, hein. On se rappelle des cordes en chanvre qu'il y avait sur les bateaux à voile. Ça fournissait du tissu, ça fournissait plein de choses. Et leur analyse, qui est du coup assez réaliste, c'est que le chanvre, c'est une plante très intéressante du point de vue environnemental et ça pourrait être une des solutions pour limiter la destruction de l'environnement. Alors ils prennent quelques exemples sur l'exploitation forestière, par exemple le chanvre. Aujourd'hui on a beaucoup d'exploitations forestières pour faire du carton, pour faire du papier, pour faire plein d'autres choses. Et le chanvre pourrait prendre la place en partie, hein, notamment pour faire du papier. Hein. Ils expliquent aussi, par exemple, sur la nourriture. Alors, on mange assez peu de graines de chanvre, mais on pourrait, parce que les graines de chanvre sont très riches en acides aminés, en acides gras essentiels, bons au fonctionnement du corps humain, et ça pourrait être une des solutions, notamment dans les pays où il y a des problèmes pour se nourrir. Alors, il rappelle aussi que, en tant que médecine naturelle, le chanvre a été très utilisé. Alors, certes, là, ils précisent bien, et ils ont bien raison, qu'il y a une évolution importante, notamment sur l'huile de CBD. C'est une substance issue du chanvre qui est non psychoactive. Il n'y a pas de THC, on n'a pas les effets psychoactifs du cannabis. Ça commence à être utilisé dans pas mal de maladies, l'arthrite, les rhumatismes, les cancers, les douleurs chroniques, des choses comme ça. Et ce qu'on note, en fait, que ça soit cette huile de CBD ou des produits avec du THC dedans, c'est que ces produits médicamenteux pourraient prendre la place des produits chimiques produits par l'industrie du médicament avec des conséquences très négatives sur la santé qui pourraient être beaucoup moins négatives avec l'utilisation de chanvre puisque c'est une médecine beaucoup plus naturelle, même si on sait que les abus de THC tout ça c'est mauvais à la santé, hein, mais dans l'utilisation médicale pas du tout, hein, on sort tout à fait de ça et ça pourrait être vraiment très utile. Et puis alors ils ont trouvé une dernière utilisation que je ne connaissais pas, le chanvre planté sur des sites contaminés avec des métaux lourds et des résidus d'épuration permettent de purifier. Alors ça, il y a plein de plantes qui purifient, mais alors c'est sur des temps très longs, hein, mais effectivement c'est une plante qui peut avoir un intérêt pour aider à la dépollution des sols détruits par l'industrie puisque c'est le cas en général. Bon voilà, grosso modo ce qu'il rappelle c'est que c'est une plante interdite dans beaucoup d'applications, elle est diabolisée depuis de très nombreuses années et pourtant ça pourrait être une solution à la dégradation de la planète, enfin de l'environnement en général, parce qu'elle aurait plein d'utilisations qui prendraient la place de choses qui détruisent l'environnement. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant de parler du chanvre et donc indirectement du cannabis, hein, mais c'est du chanvre dont il est question, pas de la résine de cannabis, hein, du chanvre, et de voir un peu que si on n'avait pas tous ces a priori, hein, en France il est interdit de faire la promotion du chanvre, il est interdit d'en vendre, sauf s'il est sans THC, on fait quelques sacs, mais tout ce qu'il y avait autour de cette plante a disparu suite aux politiques répressives, alors que c'était une plante très utilisée pour faire des vêtements, pour faire des tissus. Hein. Donc voilà, on sait que ça se redéveloppe dans certains pays, aux États-Unis d'Amérique, on a vu que même pour l'usage récréatif, qui rentre pas du tout dans les bénéfices écologiques, hein, du chanvre. Hein. Mais voilà, je trouvais que c'est une approche un petit peu différente de cette plante dont on a oublié les bienfaits.
Alors on va finir avec un petit peu de local, nous allons parler de la Fête des Lumières à Lyon.
Ça s'annonce bien.
Hein. Cette édition 2016 me fait pas rire. Alors bon, on n'en sait pas beaucoup, mais Gérard Collomb commence un petit peu à lever le voile. Je vous parle pas de ce que nous allons pouvoir découvrir au niveau artistique, non, plutôt de l'organisation de la chose. Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'a priori, ça pourrait se dérouler uniquement en presqu'île, que la presqu'île serait donc une énorme fan zone.
Donc un truc tout fermé, quoi.
Alors, avec des axes fermés, des fouilles, ce genre de choses. Alors bon, uniquement en presqu'île, les 3 millions de visiteurs et visiteuses, il va falloir les tasser. La fan zone, sur la presqu'île, je plains, moi, les habitants et les habitantes. Et franchement.
Ou ceux qui traversent la presqu'île pour aller soit à leur travail, soit là où ils habitent.
Bah, tu feras en sorte de ne pas la traverser, mais sinon, pour les habitants, ça va être l'horreur. Et puis, monsieur Collomb, qui a toujours de bonnes idées, lui aussi, propose que les spectateurs et spectatrices viennent dès 15-16 heures en presqu'île.
Oui. Bah oui, parce qu'il va y avoir tellement de fouilles que si tout le monde veut rentrer, il va falloir venir tôt, voir la veille.
Sauf qu'il fait un peu froid en décembre quand même.
Ouais. Mais il y a le réchauffement climatique, il a peut-être tenu compte de ça.
C'est ça. Alors on ne sait pas du tout, par contre, au niveau transport, comment ça va se passer.
Ils vont couper le métro à Bellecour, j'imagine.
On n'en sait rien. On ne sait toujours pas sur combien de jours ça va se dérouler. Tout ça. Il y a des négociations avec la préfecture, hein, bien évidemment, qui se poursuivent en ce moment. C'est intéressant de voir que le défilé de la Biennale avait été transféré dans une enceinte fermée. Il fallait prendre ses petits billets. 15 000 personnes ont assisté au défilé, 4 500 participants.
Enfin, un défilé. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça un défilé.
Ils ont tourné en rond. Voilà. Ouais.
Ils ont tourné en rond.
Et puis là, il y a cette grande question de la fête de la lumière. La grande différence, c'est que sur la Biennale, on a un public très lyonnais, très local en tout cas. Pour la Fête des Lumières, il y a toujours cette idée économique derrière, que ça fait vivre la restauration et l'hôtellerie. Donc c'est pour ça que Gérard se bat pour qu'ait lieu cette Fête de la Lumière. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y en a marre d'annuler des trucs. Sauf qu'effectivement, on est au mois de septembre, c'est quand même bientôt là, décembre, on est quand même sur de la grosse organisation. C'est un peu tendu quand même. Hein. Et puis qu'on sait toujours pas bien ce qui va se passer. Mais moi, je suis pour une fête... qui va durer qu'une journée, qu'on arrête de nous faire chier pendant des jours.
Voilà, ça serait plus pratique pour ceux qui traversent la presqu'île. C'est la fin de ce Canu Info, j'ai un tout petit agenda.
Eh ben, je t'en prie.
Deux petites infos liées à la Palestine. Alors, sur les quais, samedi après-midi, vers la Guy, là-bas, je crois qu'il y a la fête, comme disait l'émission d'avant, la fête des récoltes. Et il y a aussi, quai de la Guillotière, à 15h, un rassemblement, Stop la guerre, stop les violences, En marche pour la paix. Donc c'est quelque chose qui doit avoir lieu ailleurs, mais là c'est le collectif 69 de soutien au peuple palestinien qui l'organise. Il y aura donc des stands, des débats, de l'animation musicale. Donc ce sera au niveau de la Guille sur les quais pour parler de la situation israélo-palestinienne et surtout pour continuer de lancer cette campagne BDS. Je vous incite à faire attention et à pas acheter de médicaments Teva par exemple, parce que ça c'est vraiment le truc le plus répandu et que vous pouvez tomber chez votre pharmacie. Si vous lui demandez, votre pharmacienne ou votre pharmacien peut très bien vous prendre un autre générique, ça pose aucun souci. Et puis toujours en lien avec les situations palestiniennes, une conférence qui aura lieu mardi, on sera le 27 septembre à 18h30 à la Bourse du Travail, place Guichard, donc avec sur l'entrée derrière, l'entrée des syndicats, au troisième étage, salle Moissonnier, une conférence sur les réfugiés en Syrie, enfin l'impact de l'afflux des réfugiés en Syrie sur les réfugiés palestiniens qu'il y a donc au Liban, parce que maintenant il y a beaucoup de Syriens qui arrivent au Liban, et bon c'est la même chose en Jordanie aussi, mais donc voilà, il va le conférencier, qui est un spécialiste du domaine, va parler de la situation des réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie et de leur déplacement suite à la guerre en Syrie. Voilà, c'est fini pour ce Canu Info.
Voilà, vous aurez remarqué que nous n'avons pas parlé de ces policiers belges arrêtés par des policiers français, carrément menottés alors qu'ils étaient en train de transporter 13 migrants dans leur voiture. Alors pour l'instant, c'est pas encore s'ils se sont transformés en passeurs opportunistes payés ou si ce sont de grands humanistes ou simplement s'ils voulaient bien faire leur travail. On ne saura plus, j'imagine, dans les prochains jours. En tout cas, une belle affaire diplomatique entre la Belgique et la France.
C'est assez drôle.
On s'est bien bidonné jusqu'à ce qu'on pense quand même à ces 13 migrants qui aujourd'hui se retrouvent soit en rétention administrative, soit en foyer pour les mineurs parce qu'ils se retrouvent forcément dans la merde. Voilà. Mais pour le reste, oui, ça nous a fait bien rigoler quand même.
Voilà, bye bye.
À la semaine prochaine, ciao.